l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Sylvie Achard, qui représente l'association Enfants du Mékong. Alors, Marie-Sylvie, justement, cette année, la Semaine de la solidarité internationale et la Quinzaine Tiers-Monde de Montpellier ont choisi comme thème les nouvelles migrations. Et votre association, qui va bientôt fêter ses 60 ans, je crois, en 2018, comment est-elle saisie de ce problème des migrants en Asie du Sud-Est, la zone où vous intervenez?
Oui, bonjour chers auditeurs. Effectivement, Enfants du Mékong a toujours été confronté à ce problème des migrants. En Asie du Sud-Est, la Thaïlande parie pour beaucoup de pays autour du Mékong comme un Eldorado, que ce soit tout d'abord pour les ethnies Karen qui ont été rejetées en Birmanie, et également pour toutes les populations pauvres, que ce soit du Laos, du Cambodge, après toutes les guerres qu'elles ont connues. Donc, nous avons également ce problème-là auprès des Vietnamiens, des Philippins, qui aussi n'ont pas hésité à s'expatrier. Nous en avons des communautés chez nous en France.
Et alors, comment Enfants du Mékong affronte-t-il ce problème des migrants?
Alors, Enfants du Mékong cherche surtout à agir en amont d'abord, hein. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a l'esprit village, c'est-à-dire on va dans les régions les plus reculées, dans les régions qui sont les plus sensibles après tous les multiples combats qu'ils ont connus, également les régions les plus oubliées des gouvernements, des ethnies minoritaires par exemple, que ce soit au Vietnam, que ce soit au Laos. Et comme le dit Titia, qui est une de nos étudiantes à Phnom Penh, aller à l'école, c'est pas évident pour eux. Elle dit, les parents ont cruellement besoin des enfants dans les champs. Aller à l'école est vanité.
Et justement, quel témoignage avez-vous de ces étudiants de Phnom Penh que vous venez de citer?
Alors, effectivement, donc, j'ai cité des étudiants de Phnom Penh parce qu'en 2010, Enfants du Mékong a créé un centre étudiant à Phnom Penh. Alors, pourquoi ce centre? Parce que tous nos élèves, en fait, qui finissent avec le bac sont souvent dans des régions qui sont reculées, qui sont très loin, donc, de la capitale. Et il a fallu créer un centre pour les loger d'abord et puis pour leur donner également d'autres possibilités de cours supplémentaires, parce que quand ils arrivent dans la capitale, ils sont complètement perdus souvent, bon, par rapport à la vie des champs, ils découvrent une vie de la ville qui les désoriente totalement. Donc ils sont pris en charge par des volontaires que nous avons sur place. Et cette année, ils ont écrit un livre, enfin 33 étudiants de ce centre ont écrit un livre qui s'appelle « J'ai un rêve », en fait au cours d'un atelier d'écriture. Et dans ce livre, ils y racontent leur vie.
Alors, l'initiateur de ce projet, c'est...
L'initiateur de ce livre, en fait, c'est un étudiant, Pania. Il a connu, comme d'autres, bien sûr, les camps des réfugiés à 4-5 ans, à la frontière khmero-thaïlandaise. On se souvient de noms de certains de ces camps, site 2, site je ne sais plus bien. Donc la violence, les combats, il a connu tout ça très jeune, et les familles également ont connu ça. Donc cela a fait des marques dans les familles. Il a connu lui-même des violences de sa famille. Il nous dit, de façon très poignante, « Mon père m'attachait un arbre et attendait que les fourmis rouges recouvrent mon corps. Je hurlais sous cette torture. » Donc on voit bien que ces jeunes ont connu vraiment des violences que difficilement imaginables pour nous. Après, Pania a dû suivre une route qu'il appelle la route de l'enfer, 100 km à pied pour Siem Reap, la ville des temples d'Angkor où nous allons tous, nous les touristes. Son père y cherchait un guérisseur, et même c'est là qu'une de ses sœurs a été vendue. Donc on voit vraiment que la misère est...
Quand est-ce que Enfants du Mékong a fait sa rencontre à Pania?
Alors Pania, sa rencontre a été faite justement après. Il est retourné cette fois-ci dans le nord, le nord-ouest du Cambodge, à Bantéchmar. Et c'est là que sa vie bascule, parce qu'en fait, en 2001, on a créé le Centre des soirées du Mékong. Bon, j'ai souvent parlé de ces soirées que nous vendions.
Oui. Hein.
Et outre le Centre de soirées du Mékong, qui offre un travail aux femmes et même à certains hommes, parce que autour des soirées, il y a plein d'autres métiers qui gravitent, nous avons créé des programmes de parrainage. Et la chance de Pania, c'est bien sûr d'avoir été parrainée. Et pour lui, les volontaires bambous qu'il a rencontrés, Grégoire, Fix, Amélie, sont devenus sa seconde famille. Donc ça lui a permis même, en 2004, de devenir interne au moment du collège, donc de devenir interne au foyer de Sisophone.
Et c'est un autre centre, Sisophone ?
Alors Sisophone est un autre centre, effectivement dans une autre région, pas très loin bien sûr de Bantéchmar, hein, et qui a été créé, lui, en 1993. C'est un centre qui accueille plus de 1200 élèves, en fait, de toute la région, chaque jour, en cours complémentaires. Et il a 133 élèves internes, du CM2 à la terminale. Donc c'est là qu'est rentré comme interne Pania. Dans ce centre, Martin Mendio en est responsable depuis 18 ans. Et il est entouré d'une vingtaine de Cambodgiens. Donc il offre non seulement aux enfants qui sont internes des cours supplémentaires d'anglais, d'informatique, de formation humaine, etc., mais aussi aux enfants des alentours. Donc l'État lui a offert la nationalité cambodgienne et il est depuis 2 ans le vice-ministre de l'éducation nationale au Cambodge, ce qui montre bien que tout ce qu'il...
C'est très reconnu.
Voilà, tout ce qu'il fait dans ce centre est reconnu. Il a même lutté récemment contre le fait que beaucoup achetaient leur bac. Hein, donc, et on a vu que cette année, les résultats au bac ont chuté, sauf dans son centre, parce que dans son centre, les élèves sont bien préparés. Voilà,
on favorise les formations professionnelles dans ce centre.
On favorise les formations professionnelles. Il organise des forums des métiers, ce qui permet aux jeunes de choisir soit un métier manuel, s'ils ne peuvent pas aller plus loin que le bac, ou bien de s'orienter vers les universités.
Et quelle voie a donc choisi Pania ?
Et Pania, justement, a obtenu son bac avec une très bonne mention et il a pu poursuivre ses études à la faculté de pharmacie de Phnom Penh. Donc là, il est logé dans le centre Mérieux. Le centre Mérieux a été créé en 2010. Hein, c'est assez récent, enfin, il y a quand même 6 ans. Hein. Et là, il y est logé, mais il a aussi les cours supplémentaires, de nouveau en français, en anglais, en informatique, et surtout des cours de formation humaine, hein, c'est-à-dire même de la philo, et puis professionnel, du management, arriver à présenter des CV, enfin des choses qui pour nous paraissent évidentes, mais pour eux qui viennent de la campagne,
c'est vraiment de la culture générale aussi.
Il y a de la culture générale également, voilà. Et il reconnaît, lui... Ce sont des formations importantes pour me construire une vie meilleure. Je suis moi-même philo-assistant. Donc, après, ils cherchent lui-même à reproduire.
Ils prennent part.
Voilà, ils prennent part eux-mêmes aussi après avec les autres étudiants. C'est ça ils cherchent toujours à ce qu'il y ait un retour. Ils retournent la plupart du temps.
Ils s'impliquent lui-même.
Ils s'impliquent eux-mêmes, voilà. Et souvent, on voit après que nos étudiants, dans leur métier, ils vont chercher à repartir dans leur village. Et pour apporter quelque chose à leurs familles qui ont été dans le besoin.
Oui, ils se sentent solidaires
de
ceux qui restent.
Tous très solidaires sur le plan familial. C'est vraiment quelque chose de très important pour eux en Asie.
Alors, vous avez apporté de la musique. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit de la musique vietnamienne, parce que bon, là, j'ai beaucoup parlé du Cambodge, mais nous avons également un étudiant en ce moment à Montpellier, Fuang, qui va présenter sa thèse en biotechnologie dans le domaine du riz au CIRAD. Donc, lui faire honneur, j'ai choisi de la musique vietnamienne.
Écoutons. Thank you. Voilà, donc nous avons parlé du Cambodge, mais dans les autres pays d'Asie du Sud-Est, vous avez aussi...
Oui, nous avons aussi des centres étudiants. Hein. Alors, je vais parler par exemple des Philippines, parce que nous y avons une bambou, une volontaire bambou montpelliéraine, Adeline. Adeline, l'an dernier, on en avait déjà parlé, parce qu'elle avait été responsable en Thaïlande de programme de parrainage. Mais cette année, elle a recommencé, elle est repartie pour une année, et elle est responsable du centre étudiant de l'île de Dumaguete.
Aux Philippines.
Aux Philippines, voilà. Donc, en fait, là aussi, on cherche à maintenir les populations sur place hein, pour éviter de grossir les bidonvilles. Donc, elle a été confrontée à de nombreux problèmes cette année. Ça a été une mission quand même très difficile parce qu'elle a dû faire face à deux épidémies de dengue et elle l'a elle-même attrapée. Elle a été très fatiguée. Alors, elle avait la chance d'avoir sa maman infirmière qui était pour nous la bamboubis qui, de Montpellier, suivait, alertée de tous les problèmes médicaux qu'ont rencontrés ses étudiants. Alors, des étudiants ont eu des plaies parce que, bon, ils sont en tongs et souvent dans des zones qui sont mal entretenues. Donc, ça s'infecte vite. Donc, il faut régler ces problèmes. Elle s'est aperçue que des étudiants avaient besoin de lunettes. Donc, sa maman a contacté un lunetier qu'elle connaissait à Montpellier pour envoyer des lunettes. Et puis, elle a même eu certains qui ont attrapé une dengue hémorragique. Donc, qui a vraiment été dans des états très, très graves. Pour les difficultés vraiment qu'elle a rencontrées, mais elle va rentrer là. Bon, elle n'est pas encore tout à fait rentrée puisqu'elle était partie au mois de septembre, octobre, je ne sais plus. Il y a 13 mois avec le mois de tuilage avec l'autre volontaire bambou. Donc elle va rentrer, mais elle est quand même vraiment regonflée par tout ce qu'elle a fait. Ça lui a apporté énormément, même si elle a eu beaucoup de difficultés.
Ah oui, en effet.
Sur le plan humain.
Et puis alors, elle a aidé justement à maintenir les populations sur leur île.
Voilà, voilà. Voilà.
En fait, donc, c'est... ça évite de gonfler les bidonvilles et on prévient en faisant cela toutes les migrations.
Toutes les migrations, voilà. Mais on a d'autres pays également où la migration est importante. En Birmanie, la migration, elle alimente un flux ininterrompu depuis 1949 jusqu'à 2012. Et c'est là qu'on a une jeune femme que l'on connaît, Etoi, qui est Karen. Elle a 44 ans, elle est réfugiée en Thaïlande et elle a créé un réseau de 33 écoles communautaires qui sont bien sûr de l'autre côté de la frontière en Birmanie. Hein. Donc elle passait tous les jours, mais enfin elle passait illégalement pour revoir donc ces écoles qu'elle avait créées. Et elle témoigne également donc, dans un article que nous avons eu sur notre journal. Maintenant que le conflit est apaisé, je me demande si je ne devrais pas officialiser mon action en Birmanie. Il y a de bons côtés à être officiel, mais de mauvais à dépendre du gouvernement. Elle nous fait donc réfléchir, parce que bien sûr, elle est face aux différentes factions Karen qui se méfient d'elle. Donc, et elle se rend bien compte que quand on contrôle l'éducation, on a un vrai pouvoir.
Oui, donc nous avions fait... l'année dernière, un café actualité sur la Birmanie. Oui. Je crois qu'on pourra en refaire un parce qu'il se passe plein de choses
voilà,
intéressantes
oui,
dans ce pays.
Oui, parce que ça évolue. C'est sûr qu'on voit que ça s'assouplit, mais bon, il y a toujours...
Et tous les problèmes des minorités se posent.
Voilà, hein. Se posent toujours.
Hein, que se passe-t-il alors en Thaïlande, là où l'afflux des migrants est important?
Alors là, effectivement, pour le savoir, j'ai surtout lu le livre de nos étudiants de Phnom Penh, des 33 étudiants. Il y en a plusieurs qui témoignent donc de leur migration en Thaïlande. Hein. Donc ceux qui sont actuellement au centre Phnom Penh, partis souvent à 17 ans. Alors il y en a un qui raconte qu'il avait été détroussé quand il est parti du peu d'argent par les passeurs qu'il avait conduit en Thaïlande. Alors il a rejoint plusieurs usines. La première usine qu'il a rejoint, c'était une sucrerie. Il raconte, nous devions travailler de 14h à 5h du matin sans manger. Puis, il est parti dans une autre usine, une scierie voisine, et là, il disait qu'il travaillait sans protection. Il dit avoir vu un employé birman, hein, aussi les birmans qui partent en Thaïlande, hein, il a vu un employé birman se couper le bras. Donc, il dit, c'est une image bien sûr effroyable. Puis, il est reparti dans une autre usine. On voit qu'ils essayent de... plusieurs pistes. Hein. Donc une autre usine, il dit, c'était un véritable esclavage, jour et nuit sans arrêt. Nous étions morts de peur, sans la force de riposter. Enfin, il a eu une chance avec son dernier patron qui a été plus compréhensif, puisqu'il a eu la permission de retourner au Cambodge en promettant de revenir, bien sûr. Mais là, il est resté, il est resté au Cambodge. Et il s'est réinscrit en troisième. Donc après tout ce périple, il a quand même eu le courage de repartir pour des études. Et il a été parrainé par Enfants du Mékong. Et après ce parcours vraiment si difficile, il est devenu maintenant étudiant à Phnom Penh. Et donc on se rend bien compte que en Thaïlande, tout l'esclavage que rencontrent ces migrants dans les chantiers, quand on voit, nous, les touristes européens, comment on est accueillis. Par exemple, je pense à Phuket, qui est une station balnéaire, mais ce n'est pas une station balnéaire pour les migrants. On les voit sur place, on voit même les enfants qui sont enrôlés sur les chantiers. Donc là aussi, nous, sur place, on a essayé de créer un centre pour éduquer ces enfants. Et ces enfants, on leur enseigne le thaï, parce qu'il faut bien qu'ils puissent s'insérer dans la population thaïlandaise. Mais on leur enseigne aussi le birman, parce que si...
Leur langue d'origine.
Leur langue d'origine, pour que s'ils ont la chance de pouvoir retourner, quand ils voudront retourner, pouvoir eux quand même ne pas tout oublier. Et puis même aussi des rudiments d'anglais. Voilà, donc on avait fait un film l'année dernière, je l'ai passé dans plusieurs écoles, à Zicyclette, un couple de jeunes qui était parti et qui avait filmé ses enfants dans ce centre. Voilà, en fait, après ce bref tour d'horizon, on voit dans les bidonvilles, dans les villages les plus oubliés, que le rôle de l'éducation est fondamental. Que ce soit la formation professionnelle, bien sûr, pour qu'ils aient un métier, mais également la formation humaine. Et tous les jeunes qu'on a dans notre centre insistent vraiment là-dessus. Donc voici un extrait de la conclusion du livre de ces jeunes de Phnom Penh. Nous vivons, nous partageons, nous apprenons, nous nous entraidons, nous pleurons, nous rions ensemble. Dans l'espoir et dans l'engagement, dans la paix et la fraternité, nous vivons ensemble. Voilà vraiment un message enthousiaste qui nous livre tous ces jeunes qui ont pourtant un destin si bouleversant.
Alors, pour aider votre association, justement, vous organisez un repas annuel et il va avoir lieu bientôt.
Ben oui, ce repas a lieu dimanche 2 octobre. Donc, le 2 octobre, nous vous invitons au repas annuel d'Enfants du Mékong qui a lieu au château de Flaugergue. Et là, la participation est de 22 euros par personne et 11 euros pour les enfants. Donc, bien sûr, on essaye toujours de faire un petit bénéfice qui alimentera nos programmes de développement dans ces centres-là. Alors, au cours de ce repas, vous rencontrerez en particulier Ravan. Ravan est donc une étudiante de Phnom Penh qui a participé à l'écriture du livre. Et qu'elle fait un master EDAMUS à Montpellier. Donc elle nous racontera donc son parcours.
Et c'est une des auteurs du livre J'ai
voilà,
un rêve.
Voilà,
aussi.
C'est une des
voilà.
auteurs du livre J'ai un rêve.
Alors nous allons écouter une autre musique que vous avez apportée.
Oui, non, c'est une autre partie de
c'est
du,
la,
la
même
suite du Vietnam.
Voilà, musique du Vietnam. Alors, je vais terminer par le calendrier habituel. Je rappelle que en cette semaine du lundi 26 septembre, c'est le planning familial qui fête ses 60 ans et qui vous invite, bien sûr, dès ce soir à Utopia pour voir un film qui s'appelle à 20h, donc à Utopia, Les bureaux de Dieu. Et puis demain, mardi 27 septembre, de 18 à 20h, c'est au Gazette Café qu'il y aura un théâtre forum par la compagnie Les Nuits Partagées et se produira une chorale Voix d'Elle, suivie d'un apéritif convivial. Enfin, mercredi 28 septembre, aura lieu une initiative surprise de 12 à 14 heures sur la place de la Comédie. Tout cela pour marquer donc les 60 ans du planning familial. Mardi 27 septembre, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, à la salle Rabelais, aura lieu un colloque « Agriculture du futur ». Il est organisé par l'Académie des sciences et lettres de Montpellier et l'Académie des sciences, inscriptions et belles lettres de Toulouse. L'entrée est libre. La conférence introductive sera faite par Michel Eddy, qui est président et directeur général du CIRAD. Un premier thème suivra, nouvelles technologies, nouvelles stratégies, et un deuxième thème sera traité sur le contexte social. La conférence finale sera donnée par Jean-Louis Raston, professeur émérite de Montpellier Supagro, sur les agricultures familiales, socle indispensable de systèmes alimentaires durables. La synthèse et la conclusion seront faites par Michel de Nucé de la Motte, ancien directeur du CIRAD, ancien président d'Agropolis, membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. Vous pouvez trouver le programme détaillé de ce colloque sur www.science-lettres-montpellier. Demain, mardi 27 septembre, de 18 à 19 heures, c'est le cercle de silence qui se fera, bien sûr, sur la place de la Comédie. Et il y a un appel de ce cercle de silence. Venez nombreux à ce cercle. Venez nous rejoindre, même quelques instants, entre 18 et 19 heures. Relayez l'appel à participer dans vos réseaux et auprès de vos amis. En août, nous avons été 23 ensemble au maximum, mais il y a eu plus de passages dans le cercle que d'habitude, dont beaucoup de têtes nouvelles. Le cercle est d'autant plus opportun qu'en ce moment, des familles demandeuses d'asile sont actuellement à la rue à Montpellier. Elles se sont réunies devant la préfecture et installées hier vendredi en fin d'après-midi. Elles comptent rester ce week-end. Elles ont failli en être délogées ce samedi, mais dimanche, il y avait encore une manifestation. Cette situation est d'autant plus inadmissible que le nouveau CADA, Centre d'accueil des demandeurs d'asile de Montpellier, est prêt à être ouvert. Mais pour des raisons administratives variées, on n'y installe pas ces familles. Donc, venez soutenir le cercle de silence mardi entre 18 et 19 heures sur la place de la Comédie. Alors, je passe aux autres activités des membres de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale. Donc, je rappelle, dimanche 2 octobre, nous venons d'en parler, au château de Flaugergues, le repas annuel des enfants du Mékong, avec témoignage d'une filleule cambodgienne, Ravan, qui est étudiante en master à la faculté de pharmacie de Montpellier en ce moment, et d'une volontaire bambou de retour de mission au Vietnam.
Voilà, et qui avait travaillé au CDTM.
Voilà.
C'est Delphine.
Et voilà. Alors, le dimanche suivant, le dimanche 9 octobre, eh bien, ce sera le Team UNICEF World Run. Rejoignez la plus grande course solidaire et mondiale sur www.teamunicefworldrun.org à l'heure de votre choix. Courez 10 km où vous voulez. Connectez grâce à votre application de running, relevez des défis, gagnez des récompenses. C'est une course évidemment solidaire et mondiale. Donc c'est l'UNICEF qui vous y invite. Vous trouverez évidemment sur le site de l'UNICEF tous les renseignements. Donc je peux vous dire peut-être contact@newsletter.com. www.info.unicef.fr. Voilà. Et vous trouverez aussi, bien sûr, je le rappelle, sur www.teamunicefworldrun.org. Vous recevrez votre pack d'inscription, vous synchroniserez vos entraînements, vous comparez vos performances avec des coureurs du monde entier. Du lundi 10 octobre à mercredi 12 octobre, ce sera l'accueil par l'association France-Palestine Solidarité du Quartet Galilée, avec Omar Saad, qui est objecteur de conscience israélien, et c'est un druze, et Ter Kaminer, jeune objectrice de conscience israélienne, qui est juive. Alors il y aura concerts, rencontres, débats et films. Le lundi 10 octobre à 18h, ce sera l'inauguration à la Maison des Relations Internationales. Mardi 11 octobre à 20h, le concert avec musique occidentale et orientale. Et mercredi 12 octobre à 18h, au cinéma Diagonale, un film débat sur l'objection de conscience en Israël. Donc retenez cette manifestation du lundi 10 octobre à mercredi 12 octobre. Ensuite, bien sûr, vous avez le mardi 18 octobre, retenez déjà la date, ce sera le café actualité du Centre Documentation Tiers-Monde et il portera sur Pérou, la nouvelle loi de la jungle. C'est un film sur la biopiraterie qui sera projeté dans le cadre du Festival alimentaire. Donc, c'est la journée internationale de l'alimentation également qui lance tout ce festival alimentaire dont nous vous reparlerons bien sûr. Enfin, il y a également le séminaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde sur les enjeux de l'alimentation contemporaine. Plusieurs séances se dérouleront du mercredi 12 octobre jusqu'au jeudi 27 octobre. Alors c'est les mercredis et les jeudis, vendredi et jeudi 27 octobre. Donc tout le renseignement que vous pourrez trouver, bien sûr, sur la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Les séances sont variées et elles ont lieu au CIRAD ou à l'Institut des régions chaudes, suivant le jour. Et la dernière, le vendredi 28 octobre, à Supagro, au campus de la Gaillarde, Amphi-Philippe Lamour. C'est Pierre-Henri Gouillon du Muséum national d'histoire naturelle qui viendra traiter de agriculture et biodiversité. Marie-Sylvie Achard, d'Enfants du Mékong, vous pouvez rappeler vos coordonnées à nos auditeurs?
Voilà, bon, ben, vous pouvez téléphoner si vous voulez au 06 60 12 58 02. De toute façon, notre repas est aussi annoncé.
On peut s'inscrire auprès de vous pour le repas.
On peut s'inscrire, oui, mais bon, enfin, même souvent, il y a des personnes qui viennent, bon, ils s'inscrivent
au dernier moment.
Oui, bien sûr. On espère qu'il n'y en aura pas trop parce que, bien sûr, on doit.
Il vaut mieux quand même se signaler. Oui. Pour le nombre de repas. C'est un repas exotique.
C'est un repas asiatique, oui, bien sûr. Et qui sera servi avec l'évêque du château, puisque nous sommes à chaque fois le château de Flaugère qui nous offre la salle pour ce repas.
Voilà, alors je rappelle le repas dimanche 2 octobre
au
château de Frogergue. À bientôt, chers auditeurs.
Oui, à bientôt, merci.